Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. La Commission électorale nationale indépendante organise des rencontres dans quatre régions du pays avec les présidents des tribunaux de résidence, les responsables provinciaux de la police et de l'armée en raison de leur proximité avec l'électorat. Vous aurez les explications de la vice-présidente de la CENI. Et le ministère de l'Environnement promet d'informer le ministère des Travaux publics sur l'urgence d'intervenir pour que le ravin qui menace le boulevard du peuple Murundi au niveau de la zone Muyenzi ne fasse des dégâts. Dans la chronique santé, on parlera de la maladie appelée teigne avec le docteur dermatologue Eli Mopera. Voilà pour le sommaire.
Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel.
Rebonjour. La Commission électorale nationale indépendante rencontre ce mardi dans quatre régions du pays les présidents des tribunaux de résidence, les responsables provinciaux de la police et de l'armée. Annonciate Nyonguru, vice-présidente de la CENI, explique qu'il s'agit d'un groupe qui est proche de l'électorat et qui peut intervenir à tout moment en cas d'infraction commise lors des jours des scrutins.
La CENI vient d'organiser des ateliers au niveau national. Ils sont en train de se dérouler dans les cinq régions. La région nord, la région sud, la région est, la région ouest et la région centre. Ça concernait les officiers de la police judiciaire, les présidents des tribunaux de résidence, les commissaires communaux de la police et les responsables des cas militaires. C'est un groupe ciblé parce qu'il contribue à la mise en œuvre de certaines dispositions légales en matière électorale. Ils sont proches de la population électrice le jour du scrutin, par exemple, les OPJ et les magistrats des tribunaux de résidence sont compétents pour certaines infractions commises le jour du scrutin. Alors, cela contribue au respect des droits de l'homme. Il contribue aussi à la prévention et à la résolution des conflits électoraux. Donc, ce sont des partenaires incontournables dans l'organisation et du processus en cours.
Et la protection de l'environnement est une affaire de tous. Ceux qui sont proches des ravins qui se creusent ou des rivières sont appelés à planter des bambous. L'appel est du directeur général de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement au ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage. Jérémy Nginahatemba le dit après une visite sur terrain sur le boulevard du peuple Murundi où un ravin menace ce boulevard devant l'hôtel Star Hotel. Il précise que le ministère des Travaux publics va être informé sur l'urgence des travaux. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang.
Chaque fois on visite la population pour voir l'étendue du lieu de l'environnement. On est ici parce qu'on a constaté qu'il y a un ravin qui s'est créé. C'est pourquoi on est en train de faire une concertation avec la population pour qu'on puisse voir comment il faut protéger. D'abord, premièrement, vous avez vu cette route, la route est menacée. Là, on va faire un rapport pour vous adresser au ministre. Il y a les travaux publics dans ses attributions pour voir s'il peut faire quelque chose. Et au niveau de ce ravin, vous avez constaté comme moi, là où on a planté des bambous, donc il n'y a pas de ravin. Donc, c'est pourquoi on était en train de discuter avec ces populations qui travaillent ici pour qu'on puisse donner des plans de bambous pour qu'on puisse planter ces bambous sur ces lavés-là pour que ce lavé ne puisse pas continuer à se creuser en profondeur. On est ici sur télé pour faire une concertation avec cette population qui travaille ici. Vous avez vu qu'il y a des culaires, il y a des gens qui fabriquent des briques ici. Donc on est en train de se parler, on vient de se convenir qu'on va attribuer des plans de bambous comme ça ils vont planter pour protéger donc ce lavé.
Il y a d'autres ravins dans d'autres quartiers. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'activité de prévention?
L'environnement incombe tout le monde. C'est pourquoi donc nous sensibilisons la population pour qu'ils puissent signer et doter les incidents s'il y a des ravins. Alors, c'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour lancer un appel vibrant à la population burundaise pour qu'ils puissent comprendre que l'environnement c'est l'affaire de tout le monde. Si on constate qu'il y a un tel ravin, il faut approcher les services techniques du ministère et à l'environnement agricole de vache dans cette région pour qu'on puisse donner des plans, par exemple des plans de bambou qui puissent stabiliser de tels ravins. Maintenant, nous sommes en bonne période de plantation des plans de bambou. Si on constate de tels dégâts là où il y a des ravins, il faut approcher chez les services techniques pour qu'on puisse donner des bambous à planter dans ces espaces.
Également dans l'actualité, le 31 mars, c'est le délai ultime qu'annonce la mairie de Bujumbura aux propriétaires des parcelles et ceux qui exercent des activités commerciales pour qu'ils payent les impôts et taxes exigés par la loi. Dans un communiqué, le maire de la ville de Bujumbura appelle les concernés à se déclarer à temps afin d'éviter de dépasser les délais. Freddy Mbonima indique qu'avec l'informatisation, les récalcitrants seront facilement identifiés.
Nous avons lancé un communiqué pour appeler à la population urbaine de venir déclarer ceux qui ont des parcelles et ceux qui ont d'autres activités économiques qu'ils font en Meni de Bujumbura. Donc ce communiqué les incite à venir payer à temps, surtout que certaines personnes viennent vers la fin des délais alors que les déclarations commencent au 1er janvier jusqu'au 31 mars. C'est pour vous dire qu'à la fin de ces délais, nous allons appliquer les amendes et ces amendes sont automatiquement calculées par les machines, ce qui fait que celui qui ne viendra pas dans les délais, il faut qu'il s'attende à payer plus alors qu'il devait payer à temps.
Oui, dans les années antérieures, il s'est observé des mouvements de gens qui se plaignaient comme quoi les services étaient lents ou bien que le personnel n'était pas suffisant. Est-ce que pour cette année, auriez-vous réaménagé l'organisation de ce service?
Oui, effectivement, chaque année, on en tire une leçon. Et c'est pour cela que nous avons essayé d'aménager les salles et une orientation plus claire et une sonorisation qui montre quelqu'un qui vient déclarer là où il commence et là où il termine, c'est pour faciliter la fluidité du travail. Donc nous pensons que ces gens-là qui s'interposaient comme les commissionnaires n'ont plus de place à la mairie. Donc tout est clair et nous pensons que ça va aller très bien. Moi, nous constatons que certaines personnes n'ont pas vraiment ce qu'on peut appeler le civisme fiscal, alors qu'ils s'exposent à des sanctions plus sévères que la loi nous inflige à ces gens-là. Donc, je voulais profiter de ce moment pour leur dire de venir déclarer à temps. Sinon, vous allez vous trouver 2 ans, 3 ans sans encore payer. C'est que la loi nous permettra de vendre, de saisir les biens. Donc, je voudrais qu'ils ne prennent pas cela à la légère, qu'ils puissent venir payer les taxes et les impôts qui les sont imposés par la loi.
Freddy Mbonima, c'est le maire de la ville de Bujumbura. Il était au micro d'Aubin Niyonguru. Et le délai de paiement des avances qui permettent aux agriculteurs d'être servis en intrants agricoles pour la saison culturale B de l'an 2020 a été prolongé jusqu'au 17 janvier courant. Dans un communiqué sorti ce lundi, le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage a rappelé que ce sont ces frais qui donnent le droit à l'agriculteur de recevoir de l'achat agricole. Le ministre Deogui Derurema, dans le même communiqué, demande aux administratifs et aux responsables agricoles de sensibiliser les agriculteurs et les membres des coopératives au niveau collinaire de répondre à l'appel sur le paiement des frais d'avance via les postes, les agences de la COPEC et par voie électronique de l'UMICASH compte tenu de la quantité souhaitée. Pénurie de certains produits fabriqués par la Bras-Rudy, particulièrement la limonade Fanta. Les détaillants de ces produits affirment qu'ils travaillent à perte et surtout que cela fait plus de 2 semaines que ces produits ne se trouvent sur le marché. Reportage.
Les tentatives qu'on a faites pour constater.
Vous voudrez bien nous excuser, on a de petits ennuis à la technique. C'est un reportage sur la pénurie de certains produits de la Bras-Rudy, notamment la limonade Fanta.
Certains propriétaires des bistrots situés dans différents endroits de la ville de Bujumbura indiquent qu'ils travaillent à perte suite à la pénurie de certaines boissons de la Bras-Rudy. Ces derniers évoquent notamment la boisson du Fanta. Un client rencontré au dépôt situé en zone urbaine de Kamenge, fait savoir qu'il s'approvisionne ses produits à des prix élevés une fois disponibles. Egide Javialimana, un des distributeurs de ces produits à Kamenge, indique que cette pénurie crée souvent des mésententes entre eux et les clients. Les vendeurs et consommateurs des boissons de la Bras-Rudy demandent à la société Bras-Rudy de produire une quantité suffisante afin de trouver solution à ce problème.
C'était un constat de notre stagiaire Adrien Dimurukundo. Et au niveau de l'association burundaise de consommateurs à Bouko, on demande à la brasserie de donner la lumière sur cette pénurie de certains de ses produits. Pierre Ndouaïo, président de la Bouko, trouve que d'autres mesures administratives s'appuieraient sur ces éclairages de la société.
Les tentatives qu'on a faites pour les contacter, ils nous disent qu'ils sont en train de préparer une communication à donner, mais malheureusement, c'est une situation qui perdure et la communication ne vient pas du tout. Oui, ce que nous demandons à la Drasdi, c'est vraiment de sortir de son silence, d'expliquer aux consommateurs de ces produits et les problèmes qu'il y a. S'il n'y a pas de problème, comme ça, on saura que c'est, le problème réside au niveau des vendeurs. Et si le produit est quantité insuffisante, ça pourra peut-être aussi nous aider à faire un plaidoyer pour que les moyens suffisants pour satisfaire sa clientèle.
Pierre Ndouaïo, président de Laboco. Sur ce, la rédaction a tenté de joindre par téléphone le chargé de la communication au sein de la Braroudi, mais sans succès. Des habitants du quartier 4 en zone Ngagara, particulièrement ceux de l'avenue Inazegwe, réclament le débouchage d'un regard qui conduit les eaux usées provenant des latrines de la localité. Ces eaux passent maintenant devant leur maison. Ces habitants craignent d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène. Jean-Marie Mayonga.
Ce regard qui a été bouché, dans lequel traversent les eaux usées en provenance des latrines de ce quartier Ngagara, se trouve sur l'avenue Inanzegwe, au quartier 4 de la zone Ngagara, à Mairie de Bujumbura. Arrivé à cet endroit, tu es accueilli par de mauvaises odeurs dues à ces eaux usées qui traversent maintenant dans la route et descendent jusqu'à la route qui se dirige vers Mutakura, dénommée boulevard du lieutenant général Adolphe Nshimirimana, tout près de l'église Bomberger. Les habitants de cette localité disent qu'ils sont gênés par ces odeurs de ces eaux et craignent d'être attrapés par des maladies dues au manque d'hygiène.
Nous avons un problème qui concerne ces immondices qui passent dans des endroits qui n'étaient pas dans les endroits normaux. Donc si la pluie tombe, les tuyaux sont bouchés par des cailloux, d'autres saletés comme ça. Et dans son cas, les trous sont bouchés. Et puis, ces saletés avec l'eau qui coule passent à côté, à la route. Et puis, dans les ménages le soir, les odeurs nauséabondes se propagent un peu partout dans les familles. Et nous avons peur de la santé de nos enfants et de nous tous en général.
Ces habitants demandent dans l'urgence au service chargé de faire la propriété de la ville de Bujumbura d'intervenir pour que ces eaux avec des odeurs nauséabondes ne continuent pas à menacer ces individus. Nous avons contacté les autorités administratives de la zone Ngagara, mais sans succès. Au secrétariat, on nous a informé qu'elles étaient dans une réunion.
Actualité internationale avant la chronique sur la teigne, c'est la chronique santé comme les mardis. Au Tchad, le secteur public va tourner au ralenti à partir de ce mardi, 7 janvier. Las d'attendre le rétablissement de leur prime d'indemnité coupée depuis 3 ans, les travailleurs ont décidé d'entrer en grève après des négociations infructueuses avec le gouvernement. Après d'ultimes négociations ce lundi en fin de journée, au cours desquelles le gouvernement a tenté de désamorcer le mot d'ordre de grève, les travailleurs indiquent qu'ils vont débrayer malgré tout le mardi matin en changeant de tactique tous les 3 jours. Vendredi dernier, ce lundi, le gouvernement a proposé un rétablissement graduel à hauteur de 15% des primes et indemnités coupées. Très peu ont répondu en cœur les travailleurs qui ont décidé, ce faisant, de mettre le gouvernement sous pression. Et plus de 300 demandeurs d'asile soudanais ont été arrêtés par la police près de la ville d'Agadez dans le nord du Niger. Selon Seyini Saïdou, procureur du tribunal de grande instance d'Agadez, ces demandeurs d'asile avaient entrepris un sit-in devant les bureaux du ACR à Agadez depuis le 16 décembre jusqu'au 4 janvier dernier. Ils exigeaient l'accélération du traitement de leurs demandes, du statut de réfugiés et leur acheminement vers l'Europe. Samedi, ils ont été délogés par les forces de sécurité qui les ont ensuite convoyés vers leur site d'hébergement. Selon un bilan des autorités locales, sur les 331 habitations du camp, 290 habitations et l'infirmerie ont été réduites en cendres. Au moins 2 personnes ont été blessées par les manifestants qui ont cassé des vitres. Et c'est un revirement stratégique des forces du maréchal Haftar en Libye après avoir ciblé la capitale Tripoli depuis avril 2019. L'armée nationale libyenne a pris d'assaut par surprise ce lundi 6 janvier la ville de Sirte, située au centre de la Libye, à quelques 250 km de Misrata, fief des milices soutenant le gouvernement d'Union nationale. L'opération a duré quelques heures à peine. Cette opération éclair intervient après que la Turquie a annoncé son soutien militaire au gouvernement d'Union nationale de Fayez al-Sarraj. Sitôt la ville de Sirte prise, le ministre de l'Intérieur du gouvernement provisoire, Haftar, basé à l'Est, a nommé un directeur de la sécurité dans la ville. Il s'agit du général Lamine Mamé.
Radio Isanganiro, chronique santé.
La teigne est une maladie traitée de manière différente selon son stade d'évolution. Le dermatologue Elimo Perra souligne que les champignons de la teigne peuvent se multiplier et ces dernières se propagent dans tout le corps une fois mal soignées. Docteur Elimo Perra conseille aux gens de toujours respecter les mesures d'hygiène, surtout en ce qui concerne la stérilisation et le nettoyage des appareils utilisés dans des salons de coiffure. C'est la chronique santé signée Ornella Mucho.
La teigne est une maladie curable facilement lorsqu'elle est traitée juste à l'apparition des taches rondes sur la tête. Dans le cas du traitement, à un stade avancé, surtout chez les enfants les plus exposés, ça nécessite un traitement prolongé de 3 à 6 mois, selon les explications du dermatologue Elimo Perra.
Sur le plan du traitement, il existe plusieurs antimycosiques, plusieurs traitements sur le marché. Certains sont des shampoings pour nettoyer le cuir chevelu. D'autres sont des crèmes que l'on utilise à un stade trop précoce. Et au stade avancé, on fait recours à des traitements généraux, c'est-à-dire des médicaments buvables dont la durée peut être prolongée de 3 mois à 6 mois, notamment quand on s'est fait soigner au stade avancé.
Selon toujours docteur Elimo Perra, lorsque la teigne est mal soignée, elle peut entraîner des complications, comme atteindre d'autres parties du corps, dont les ongles, alors que c'est une maladie qui touche généralement le cuir chevelu.
Au stade avancé, ces champignons continuent à se multiplier dans le corps, à se disséminer à distance, à entamer d'autres parties du corps, notamment la peau, les ongles, etc., les muqueuses. Et là, le traitement va être prolongé parce que c'est un traitement qui est très sujet à des complications, notamment des complications au niveau du foie, ce qui justifie une surveillance très rapprochée et ceci constitue une contrainte pour le malade.
La teigne peut revenir à chaque fois que les mesures d'hygiène ne sont pas respectées. Docteur Mopera conseille alors les gens à garder une bonne hygiène tant corporelle que vestimentaire pour la prévention.
Il y a des maladies où on ne peut pas faire un deuxième épisode. Ce sont des maladies dites immunisantes. C'est le cas de la varicelle. Mais pour les mycoses, ça ne reste pas une immunité résiduelle. Ce qui fait que si on est guéri du premier épisode et qu'on n'observe pas les mesures d'hygiène, ça n'empêche pas de développer un deuxième épisode. Et la prévention, c'est le respect des mesures d'hygiène, notamment en ce qui concerne l'hygiène corporelle et vestimentaire. Quand on a beaucoup transpiré, il faut se laver, s'essuyer et laisser bien sécher la peau. Il faut donc une bonne hygiène des teignes avant que ça ne soit utilisé par une autre personne, notamment quand c'est à usage communautaire. Au niveau des salons de coiffure, il faut qu'ils veillent bien à l'hygiène de leurs instruments et appareils, notamment les tondeuses, n'est-ce pas, en respectant les mesures.
Le diagnostic de la teigne est essentiellement clinique. Le dermatologue Elimo Perra précise toutefois que pour identifier précisément le genre de champignon, ils font recours au prélèvement mycologique.
Merci Ornella Mucho, merci Docteur Elimo Perra pour ses éclairages sur la teigne. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction et de la technique qui m'ont aidé à réaliser ce journal. Un bon après-midi.
Jean Bosco, Douimane.